Cause toujours. Série d'été. Cause toujours, l'émission qui donne la parole aux anciens. Histoire, anecdotes, souvenirs, Jeanne Blanchard est allée tendre le micro aux résidents de la maison de retraite de Crozon. Les pattes du bout du monde.
La vieillesse, ça n'apporte pas que du beau. Ouais.
Et alors tout ça, vous avez enregistré, Mana, et tout ce que j'ai dit.
Oui.
Eh ben, c'est pas bien.
Où est-ce que vous avez grandi?
J'allais draguer. C'est pas ça que vous avez dit?
Non, où est-ce que vous avez grandi?
Aujourd'hui, rencontre avec les habitants et habitantes du bout du monde autour des correspondances postales. Bernardine et Edouard nous parlent des courriers qui traversent le monde pour trouver leur destinataire. Des réclames politiques déposées discrètement pendant la nuit, des lettres qui font couler des larmes sur les joues et de celles qui produisent des papillons dans le ventre. Bernardine a les yeux qui pétillent et le sourire en coin. Elle est née il y a un peu plus de 100 ans, tout près de la plage de Kerlor, à Camaré. C'est une femme de caractère qui a épousé un bigoudin.
Quand je l'ai connu, eh ben, il habitait Roscanville. J'étais partie pour emmener un quartier de cochon sur mon dos. Un quartier de cochon, mes parents avaient une ferme. Ils avaient vendu un quartier de cochon à ma cousine.
Ah.
Et moi, je suis allée porter le quartier de cochon à Brest. On a pris au poteau bleu, là, le car pour aller au bateau, quoi. Prendre le bateau pour aller à Brest. Mm. Vous voyez, j'ai encore un peu de mémoire. Et lui, il se trouvait là-bas comme infirmier. Mon oncle était premier médecin infirmier, lui était second médecin infirmier seulement. Le soir même, il a envoyé sa première lettre à mes parents avant la permission de me fréquenter, sans me demander à moi. Mon père s'est mis en colère. Tu crois, t'as été encore... Chercher après des hommes à Brest. J'avais été portée à quartier de cochon, c'était pas chercher des hommes. Lui, il s'est trouvé là pour porter le quartier de cochon du port de commerce jusqu'à là, chez ma cousine. Il disait pas trop, il dit ça l'est trop jeune, elle n'a que 17 ans, c'est trop jeune encore pour chercher après des hommes. Mais j'ai réussi par Amadou et mes parents, et puis mon mari aussi. On s'est mis tous les deux à les amadouer. On nous a laissé nous fréquenter. Ça arrivait comme ça. Le coup de foudre, comme ça, tout de suite. Ils voulaient le consentement de mes parents avant de savoir si j'étais d'accord. Ils pensaient très bien que j'étais d'accord. Ils s'étaient aperçus qu'il me plaisait.
Qu'est-ce qui vous plaisait chez lui?
Tout lui me plaisait chez lui, il était tellement calme, tellement gentil, on voyait que... Une bonne éducation à Saint-Gabriel, la Pont-Labbé, mais que voulez-vous.
Et alors, il vous écrivait des lettres d'amour.
Oui. Oui, alors des belles lettres, qu'est-ce qui tournait bien ces lettres? Vous voyez bien qu'il avait fait l'école.
Il vous écrivait tous les jours?
Oui, tous les jours, comme une fois par jour des fois.
Il notait quoi dedans?
Oh, des gentilles choses, mais plein de gentilles mots. Et plein de mots doux autrement, quoi.
Il vous faisait des compliments?
Oui, oui. Il me trouvait jeune et jolie, quoi. Ah oui. Qu'est-ce qu'il savait tourner des belles lettres? Alors, c'était un vrai poète. La poésie, presque. Alors, on va se fréquenter en attendant peut-être. Voilà ce qu'il disait aussi, quoi.
Est-ce que vous receviez une lettre, mais est-ce que vous le voyez dans la semaine, entre-temps?
Ah non, on ne pouvait pas le voir. Moi, j'étais à Camaret, lui, à Brest. Il venait tous les samedis, tous les vendredis soir. jusqu'au dimanche soir. Sa mère habitait Roscarvel. Alors il allait dormir chez sa mère, bien sûr. Il n'aurait pas, sans avoir passé devant le maire et le curé, quand même, il n'aurait pas. On n'aurait pas dormi ensemble comme. On n'aurait pas été dans le même lit avant d'avoir passé devant le maire et le curé, quand même. On n'était pas du monde comme ça. On avait eu une autre éducation que ça. C'est ça, du monde bien, quoi. Il écrivait deux pages de lettres, là, des gentilles lettres, alors. Des mots doux, quoi, pareil.
Est-ce que, quand il venait vous voir le week-end, vous vous bécotiez, vous vous teniez la main, vous aviez le droit de vous toucher? Comment ça se passait?
Quand il arrivait, bien sûr, on se bécotait. Il n'y avait pas moins, mais ça n'allait pas plus loin. On n'était pas du monde comme ça. Lui avait eu une bonne éducation à Saint-Gabriel, à Pont-l'Abbé, quand même. Et moi, j'étais chez les bonnes sœurs de Crozon. Et ben, j'étais pas trop approché avant d'aller avoir passé devant le maire et le curé, quand même. Il a été à Tahiti un an après qu'on est marié, il avait été désigné pour Tahiti. Et après, la guerre est arrivée, autrement on payait les femmes, les voyages aux femmes pour aller rejoindre Marie. Mais la guerre est arrivée, moi j'ai fallu rester presque 3 ans sans voir mon mari. C'est pas 3 jours, hein. Dire qu'on a vécu tout ça.
Ça a dû être long, 3 ans.
Hein?
C'était long, 3 ans.
Ah oui, bien sûr. Lui a beau écrire tous les jours des gentilles lettres. C'était un poète pour écrire, tellement il écrivait des belles lettres.
Mais ça remplaçait pas la présence.
Ben non, bien sûr, c'est ça.
J'ai trébuché, je suis tombé. Tu m'as touché, j'ai succombé. Obsolescence déprogrammée. Je t'aime à la perpétuité. Même si le monde est contre nous, je serai fort prêt contre toi. Je me fous de la mort qui dénoue. On se dira oui comme autrefois. Elles poucavent les étoiles entre elles. On balançait ce que je voulais te dire. Toutes les belles choses que porte le ciel ne font qu'imiter ton sourire.
Des histoires d'amour, Bernardine n'en a pas vécu qu'une seule. Il y a eu un autre homme dans sa vie, un homme très important. Tellement important que Bernardine l'appelle même son second mari. Un mari avec qui l'amour a été davantage politique que poétique.
Donc elle partie politique au RPR, au RPF après. Après, je ne me rappelle plus. Tout ce qui est de droite, quoi. Jamais question de tourner à gauche.
Et alors, qu'est-ce que vous faisiez pour ces partis politiques?
Hein?
Qu'est-ce que vous faisiez?
Je ne faisais rien. Mets des choses dans les boîtes à lettres. Mets de la réclame dans les boîtes à lettres, c'est tout. Je faisais aller aux réunions, bien sûr. Et puis c'est tout, quoi.
Et donc c'était des réclames pour De Gaulle?
Pour De Gaulle? Oh là là, oui. Pour De Gaulle, pour moi, c'était quelqu'un de sacré. Il ne fallait pas dire du mal de De Gaulle, autrement. On se faisait mal voir. Ah oui, ça n'allait pas.
Moi, général De Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir, à se réunir à moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.
Payé par les partis?
Non, au contraire, ça me coûtait de l'argent, c'est pas dans ma force de me déplacer, de laisser des choses à faire chez moi. Non, non, pas de paye, pas de récompense du tout. Puis c'était ancré dans l'idée tellement que on avait envie de se dévouer, de se dépenser. Comme j'habitais à la campagne, un village à Kerguel, elle est pas loin de la place de Kerlor.
Qui vous donnait les prospectus que vous mettiez dans les boîtes aux lettres?
Ben, j'allais prendre la permanence RPR. Et oui, j'étais dévouée. Je regardais pas, je pensais à perdre du temps.
Et vous étiez toute seule le soir?
Oui, j'allais toute seule le soir, ben non. Rien ne m'empêchait tellement j'étais. J'allais tout jusqu'à Rostigel partout, là. Et remplir les boîtes à lettres pour programme, bien sûr.
Et est-ce que les gens savaient que c'était vous qui mettiez dans les boîtes aux lettres?
Ah, je crois pas. J'étais pas connue quand même à Rostigel, j'habitais là, pas loin. Ma maison était pas loin de la place de Kerlor. À Rostigel, j'étais pas connue, vous savez bien. S'interne tout ça là.
Et vous n'aviez pas peur le soir?
Non. On était trop, ouais, trop motivé pour avoir peur. Trop motivé pour avoir peur. France dans le brouillard. J'allais déjà voir Charles de Gaulle plusieurs reprises, bien sûr. Je me suis même allée à Paris pour une réunion de Gaulle, je me rappelle. Bien sûr, j'étais gaulliste 100%. Je m'étais mise là-dedans, puis c'est bon.
Vous étiez un peu amoureuse, quoi?
De Gaulle?
Un peu.
Presque. Oui, oui. Oh là là, celui qui aurait dit du mal de De Gaulle, ben, oui, il pouvait s'attendre à la revanche. Oh là là, j'avais la rage après les communistes. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Ça, c'est un communiste. Quand je rencontrais des communistes, je leur disais « Les cocos, c'est Mao. » Adressé à Mao. Vous savez qui c'est Mao? Ah bon?
Vous les croisiez souvent, les communistes?
Hein?
Vous les croisiez parfois?
Oui, j'ai eu souvent des disputes, presque des bagarres. Vous savez, moi je me laissais pas faire.
Mais pourquoi? Pourquoi ça vous mettait en rage?
Ben parce que c'était des gens qui en voulaient à De Gaulle. Comme lui s'en voulait à De Gaulle.
Alors vous aimiez pas.
Les boîtes aux lettres de la presqu'île de Crozon ont eu droit à leur lot de combats politiques. Gaulliste vs communiste. Mais quand on n'a pas de boîte aux lettres, là, les choses se compliquent. Édouard a travaillé toute sa vie pour la marine marchande. Il a parcouru les mers et les océans, de l'Égypte à l'Uruguay. Et les enveloppes, quel que soit leur contenu, avaient parfois du mal à le suivre.
Enfin bon, tout ça, c'est loin, c'est du passé. Mais après, je suis parti à la Dreyfus. Alors là, c'est tous les pays. Là, le chargement était vendu en mer.
C'était la compagnie.
Oui, en mer, oui. Alors le courrier ne suivait plus, quoi.
Ouais.
La compagnie à Paris, ils envoyaient notre courrier à tel port, parce que c'était là qu'on devait se rendre. Mais en mer, c'était vendu, on changeait de cap. Alors le courrier, bon, il nous suit, mais il suivait, mais des jours en retard, quoi. Alors quand on les recevait, c'était un paquet. On commençait par la plus vieille, quoi. Et la première lettre qu'on disait, c'est pour... Il était malade, quelqu'un qui était malade. On arrivait à la dernière, il était guéri. C'est vrai, on rigole comme ça, mais c'est pas marrant non plus, hein. Mais ceux qui n'avaient pas de courrier, on allait le consoler, quoi. Voilà. On faisait de notre mieux, quoi. De notre mieux. C'est tous pour un et un pour tous. Hein. C'est une famille, quoi. Notre famille, quoi. C'était pas marrant, toujours. Un jour, je suis parti de chez moi, de la maison. J'avais mon sac sur le dos, puis ma valise sur l'autre main. Je tenais mon sac d'une main, sur mon épaule, et puis ma valise sur l'autre main. Puis j'ai vu ma chatte qui me suivait sur le trottoir. J'allais à la gare prendre mon train. Je retourne à la maison, je me suis arrêté, puis j'ai dit retourne à la maison. Bien sûr, elle ne me comprenait pas, mais elle s'était assise, sur derrière, sur le trottoir, et elle ne bougeait pas. Alors j'ai posé mon sac par terre et ma valise, et puis je suis allé la prendre dans mes bras et je l'ai ramenée à la maison, chez ma mère et mon père. Et j'ai refermé la porte derrière. J'ai redescendu vers le trottoir, prendre mon sac, ma valise, puis en route vers la gare, pour prendre le train, pour aller à Paris, parce que je devais aller à Amsterdam. En Hollande. Bon, ben, je suis arrivé en Amérique du Sud, j'ai eu du courrier un peu de mes parents. J'ai lu la lettre, et puis dans ma lettre, mon père me disait que la chatte était morte. Ça m'a fait un coup, j'ai pleuré, oui. Oui, j'ai eu des larmes. C'était une grave fête. Pour moi, je suis persuadé qu'elle est morte de chagrin. Parce que, à la fois avant, elle avait fait pareil aussi. Et j'étais parti pour un an aussi. Elle n'avait pas dû oublier ça, sans doute. Quand elle m'a vu partir, elle savait que... Peut-être qu'elle était malade aussi, je ne sais pas. Ou elle avait vieilli d'un an de plus, quoi. Bon. Pour moi, elle est morte de chagrin. Oui, ça m'a fait un coup, quoi. Quand j'ai vu ça, je ne m'attendais pas à ça du tout. Ça m'a fait un mal.
C'était Cause Toujours avec Édouard et Bernardine. L'émission Cause Toujours a été réalisée et enregistrée par Radio Évasion à l'EHPAD de Crozon. Merci aux habitants et aux habitantes de nous avoir partagé ces extraits de vie. Merci à Pélagie, Léna, Ève et Caroline de m'avoir menée de ces couloirs labyrinthiques jusqu'aux histoires des résidentes. À bientôt sur Radio Évasion.